Chapitre 8. L'étang, novembre. Il serait indigne de vous et de moi, ma chère amie, de mettre quelque feinte entre nous. C'est vrai, je discute des idées que je ne discutais pas il y a 6 mois. Oh, rassurez-vous, je suis loin d'être convaincue, mais j'éprouve un grand plaisir à disserter avec un esprit aussi ferme que celui de M. d'Hautefort. Il y a dans ses convictions une autorité qui me plaît et j'admire, malgré moi, la façon dont il ramène une question à son but. Nous nous échappons à droite et à gauche, lui précise la pensée et la maintient dans son sens intégral. J'ajoute que cela m'impatiente également et que l'école buissonnière, en dehors de son charme, a des arguments spéciaux que M. d'Hautefort ne comprend pas. Pourquoi dites-vous qu'il est fier de ses convictions? C'est absurde! Vous lui en voulez un peu, avouez-le. Oh, âme du monde! Non, je ne l'abandonne pas, et ce matin encore, pendant que j'aspirais les parfums qui venaient du réséda, des derniers héliotropes, pendant que mes yeux contemplaient les horizons colorés, je me disais « Comment cet homme intelligent ne voit-il pas, ne sent-il pas le divin de cette âme que nous respirons, que nous sommes nous-mêmes ? » Comment appelle-t-il matière des sensations qui sont un élan de nous-mêmes vers le beau? Vous avez dû remarquer qu'il prenait plaisir à causer avec moi. Cela met en pièce votre idée de derrière la tête qu'il a du dédain pour les intelligences féminines. Il m'intéresse doublement aujourd'hui car il a laissé échapper une demi-confidence qui m'a beaucoup touchée. C'est un homme malheureux, résigné sans doute, d'une résignation qui descend des cimes, mais enfin malheureux, je le sens, j'en suis certaine. Imaginez que j'ai osé le lui dire. Il m'a répondu comme s'il réfléchissait à une chose qui ne l'avait pas encore frappée. Malheureux? Non, je ne le suis pas dans le sens propre du mot, mes convictions sont trop fortes. Quand la vie morale est fermement assise, on peut souffrir, on souffre en effet, mais sans que ce soit exactement ce que vous croyez. Je réfléchissais que ces paroles étaient vraies. Des croyances assises assurent une tranquillité qui atténue immédiatement la souffrance. Que de fois nous en avons eu la sensation lorsque nous étions baignés dans le calme qui se dégage de la vie divine universelle. Je gardais pour moi-même ces réflexions, mais il les devina et il me répondit comme si je venais de les exprimer par des paroles. « Non, me dit-il en souriant, la poésie et les forces divinisées de la nature ne sauraient suffire à un esprit rigoureux. » Le panthéisme est subjectif car on y est amené par des impressions, non par la raison et la critique. Il arrête la pensée au moment précis où elle voudrait aller plus loin et plus haut. Je vous cite ces paroles sans les commenter et vous dis adieu. C. L'étang, novembre. Je suis troublé, me dites-vous. Je me laisse influencer et ne résiste plus aux doutes sur la vérité et la solidité de nos croyances. Je l'avoue, lorsque je vais à l'église, je n'ai plus la tranquillité d'autrefois, je ne suis plus sûr d'être seulement environné de symboles. Et le croire, est-ce rester dans le catholicisme? Ce catholicisme n'est-il vraiment qu'une phase de l'évolution de l'esprit humain, ou bien a-t-il une essence propre à lui-même? A-t-il un côté absolu? Je m'explique mal, bien que je me comprenne. M. d'Hautefort soutient que nous devrions étudier la question autrement qu'en discutant agréablement entre une tasse de thé et un bridge. Vous prétendez que je suis entraîné vers lui, qu'un jour je l'aimerai, que déjà le sentiment existe, que c'est lui qui parle dans mes effusions devant l'automne, et vous criez au danger. Quel danger? Je suis libre, lui également. Qu'importerait un sentiment réciproque? Mais en sommes-nous là? Encore que je vois parfaitement l'intérêt avec lequel il m'observe et m'écoute. Il a une manière extraordinairement franche de me dire sa pensée, sans embâge, sans songer qu'il peut m'humilier, et, chose singulière, cette humiliation que j'éprouve quelquefois, car mon raisonnement est souvent inférieur au sien, cette humiliation, je l'aime, elle me rapproche de lui. Il me plaît de recevoir des leçons que je n'accepterai de nul autre. Si je n'entre pas complètement dans ces idées, je comprends, du moins, qu'elles ont une base plus ferme que les nôtres, qu'elles sont, avouons-le, plus nettes, plus suivies. Je ne nie pas qu'il y ait, en M. d'Hautefort, des qualités qui m'attirent. Il est évident, en tout cas, que cet homme encore jeune, qui pourrait aspirer aux joies de la vie et qu'une secrète douleur, loin d'irriter, rend vraiment fort, est sympathique extrêmement. Pour le juger, mettons notre amour-propre de côté, cher ami. Il a blessé le vôtre et vous me paraissez influencé par ce souvenir. Je sais bien que nous avons, vous et moi, la prétention d'être, comme lui, très apaisés. Ne serait-ce pas une illusion ? Monsieur d'Hautefort répondrait « Pour vous, c'est la jeunesse avec ses espérances. Pour votre ami, c'est la vue intelligente de ce qu'on peut demander au déclin des années. Enfin, faites très certain, nous ne voyons pas la vie de la même manière. Lui la considère comme une mission de son âme personnelle vers un but déterminé, nous comme un concours impersonnel au progrès en marche. » Nous la voyons encore comme un spectacle dont les décors et les actes sont créés pour exciter la curiosité et l'intérêt. Aussi recherchons-nous tout ce qui nous paraît être un agrément, une jouissance. Lui n'y pense pas, ou passe sans s'apesantir. Je vous livre ces réflexions pour ce qu'elles valent. Pour moi, j'ai beaucoup réfléchi depuis quelque temps, et je vois que nos conceptions ont un côté moins élevé que celle de M. d'Hautefort. » Lui ajouterait que nous n'avons pas le droit de prononcer le mot d'élévation qui n'a aucun sens pour les matérialistes, mais je nie ce matérialisme dont il nous accuse. Un fait m'étonne, m'intrigue même, vous ne l'avez pas remarqué et je n'ai pas pensé jusqu'ici à vous en parler. Malgré l'aisance de M. d'Hautefort, malgré son expérience et ce je ne sais quoi d'original qui le mettra toujours hors pair partout où il sera, il a des silences qui ressemblent à un subit embarras. Il est réservé, mais nullement timide, et je l'ai vu, plus d'une fois, céder à un évident accès de timidité, surtout en présence de ma sœur, dont l'affabilité n'est faite, cependant, pour intimider personne. J'ai eu l'audace de lui en faire la remarque. Il s'est troublé, j'en suis sûr, malgré son apparente froideur. Cependant, il a répondu, avec le calme que vous lui connaissez, « Après tout, je ne suis pas incivilisée et mes pensées m'emportent loin d'ici. » Madame de l'Étang, toujours bonne et affable, me rappelle souvent, par un geste, par une intonation, une personne chère que j'ai perdue. Je me demande si l'explication est satisfaisante, mais je voudrais savoir si cette personne est sa femme morte ou si une autre affection a troublé sa vie. Adieu. C. L'Étang, novembre. Vous m'écrivez que ma dernière lettre est un aveu inconscient qui se cache dans chaque ligne. Je ne veux pas d'inconscience, je veux l'avouer ouvertement. Oui, j'aime M. d'Hautefort et je prévois avec joie que le moment n'est pas éloigné où il parlera. Je sais, je sens qu'il m'aime et s'il existait un obstacle, je saurais le détruire, je provoquerai les paroles que j'attends. Veufs tous les deux, nous reconstruirons ensemble notre foyer. Et si j'arrivais à voir, moi aussi, une incompatibilité absolue entre les croyances chrétiennes et nos idées, que vous importerait ? Vous ne pouvez avoir souci d'une nuance, voire même d'une différence, puisque vous dites que les opinions les plus diverses ont leur utilité et sont toujours une expression du souffle vivant qui gouverne le monde. Oh, que vous êtes bien femme, me dites-vous, vos idées commencent à subir une métamorphose parce que vous aimez. Mais n'est-ce pas par le sentiment, par des impressions personnelles, que vous êtes parvenu, vous, cher ami, à penser comme vous pensez ? Nous sommes femmes, c'est vrai, et je considère que nous nous adressons un compliment, bien que nous voulions faire le contraire. À quelle femme faisait-il allusion l'autre jour ? Adieu. C. L'Étang, novembre. N'en croyez rien, je ne suis jalouse ni d'un fantôme, ni d'un souvenir. Mais quand le cœur est en jeu, il voudrait percer les ténèbres, il voudrait une cloison transparente entre lui et le passé de l'homme qui l'attire. Enfin, je vous retrouve lorsque vous m'écrivez « Il y a, dans votre rapprochement avec M. d'Hautefort, une cause mystérieuse qui prend sa source dans les profondeurs de la nature, donc un bien se produira, soit ouvertement, soit à notre insu. » L'amour est toujours un bien, puisqu'il est la forme la plus idéale et la plus complète de la vie. Parfois, un doute me vient, et je crains. Je crains d'avoir vu ce qui n'était pas, d'avoir attribué à un sentiment inexistant la sympathie de M. d'Hautefort. Il ne me fait pas la cour, loin de là. Jamais un mot, un geste, ni même un regard n'a confirmé mon espoir secret. Et cependant, une femme se trompe rarement sur un tel point. Je veux croire parce que je veux être heureuse, et désormais mon bonheur dépend de M. d'Hautefort. Une première fois j'ai aimé, pourtant il me semble que mon amour d'aujourd'hui ne ressemble pas aux sentiments de ma première jeunesse. Il me prend tout entière et n'imagine pas comme la première fois, il est plus conscient, je sens et je me pénètre de cette tendresse profonde qui est le fond même de mon sentiment actuel et qui fait que mon esprit indépendant plierait avec joie devant les vues de M. d'Hautefort si je les juge supérieures aux miennes. La voix de l'orgueil et de l'amour-propre est bien faible devant celle de l'amour. À vous, c'est...